Canu 102.2. Canu Info du vendredi.
Canu, donne-moi des infos.
La radio più ribelle.
Paniquez pas.
Bonsoir.
Bonsoir, vous êtes bien à l'écoute de Radio Canu, c'est l'heure du Canu Info du vendredi.
Est-ce que les micros sont vraiment allumés?
Oui, les micros sont allumés, madame.
Ah oui?
Et il est 19h04 au programme aujourd'hui.
Alors, au programme, pour commencer, un petit reportage sur le patio des aînés.
Puis, on vous parlera de l'occupation de la mairie du 3e par les familles du square Barabon.
Puis, on vous parlera des nouvelles de Calais. Puis, on vous parlera du local des Républicains en vrac à Grenoble.
Alors, c'est vrai. Puis, on vous parlera, c'est ça qu'on dit du sexe neutre.
Puis, on vous parlera d'une femme et de ses deux enfants, tu rigoles, mais c'est pas drôle du tout, qui ont été bloqués pendant 15 jours dans la zone d'attente de Roissy et qui sont enfin sortis en direction de l'hôpital.
Et ensuite, on ira en Guyane, où il y a un vent de révolte qui souffle.
T'as pas dit puis, on parlera.
Puis, on parlera de la Guyane.
Puis, c'est Kiki le plus riche, Bernard Arnault.
Et Gaspard Glanz, menacé de meurtre par des flics.
Et ça sera l'occasion aussi de revenir sur la place des vidéos en manif.
Et on finira à l'international avec deux lois anti-avortement au Texas et peut-être en super bonus, l'ouverture d'un centre social autogéré à Bruxelles.
Et on finira évidemment avec l'agenda.
L'agenda.
Prenons une ville, Lyon. À Lyon, nous pensons que chacun est capable d'innover. Nous rassemblons les conditions nécessaires pour faire émerger les projets les plus
smart. Avec la volonté la plus respectueuse et la plus responsable.
Ouvrez les yeux, la précarité n'est pas minimale à Lyon.
Difficile.
Pour cela, nous récoltons les données du territoire, les organisons et les traitons.
Vous ne pense pas ici que cela fait plaisir à aucun des adjoints élus ici.
Et vous les bougez en bonne intelligence. Pouvoir inventer et construire la ville de demain est une chance. Construisons-la ensemble.
On ne vous laissera pas faire.
On ne vous laissera pas faire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
C'est nous les artistes. On chante, on résiste.
Du coup, maintenant, dans la rubrique locale, on va commencer par un petit reportage d'une camarade sur le Patio des Aînés, qui est une association au cœur de la Guillotière qui accueille des personnes chibaniques.
Canu Info du vendredi, reportage.
C'était en 2013. On avait fait de la lutte pour les chibanis sur les jardins d'Amérante avec eux. Et puis après, je m'étais dit que c'était pas mal que fasse un petit reportage quoi, sur le patio. Et la discussion directe avec les gens, tu vois, qu'est-ce que c'est, à quoi on sert, pourquoi, qu'est-ce qu'ils vivent aujourd'hui. Parce que c'est quand même des gens qui ont un rapport avec l'histoire directe, on peut dire quoi.
Le Patio des Aînés, café social pour personnes âgées migrantes.
Alors, ce projet, il est né en 2008 pendant ma formation, parce qu'auparavant, je travaillais à la DAPI du Rhône. Et donc, au bout de 25 ans, j'en ai eu un peu assez et j'ai voulu faire autre chose. Donc, j'ai entrepris la formation de responsable d'entreprise d'économie sociale et solidaire. Et en montant et en des projets pendant cette formation, je me suis rendu compte, en prenant connaissance de l'évolution de la vie sociale qui nous entoure, je me suis rendu compte que nos personnes âgées migrantes qui sont venues pour construire la France aujourd'hui, elles sont toujours confrontées aux mêmes problématiques et que personne ne les prenait en charge. Et invisibles, elles ne demandaient rien, mais elles subissaient tout doucement, en douceur. Alors, le Patio des Aînés, c'est un lieu d'accueil, un lieu de rencontre, un lieu d'accompagnement. Voilà. C'est aussi un lieu où la personne, elle vient parce qu'elle n'a pas la possibilité de répondre à tout ce sarcasme administratif. On peut dire ça comme ça. Parce que ne sachant ni lire ni écrire, et en étant avancé en âge, donc aujourd'hui, la personne âgée, quelle que soit ses origines, elle a des difficultés à répondre aux droits communs pour continuer à garder ses biens, enfin, c'est pas ses biens plutôt, à garder ses droits, tout simplement, pardon. Nous sommes une passerelle, on doit dire ça comme ça, nous sommes une passerelle de droits pour que la personne âgée puisse avoir la santé. Et, la, et les ressources, afin qu'elle obtienne enfin son bien-être. Les migrants âgés qui restaient dans leur désespoir, au niveau paperasserie, au niveau droit, souvent ils ne savaient, souvent ils sont dans le, comment dire, dans le rejet, mais pas le rejet de vouloir agir convenablement. Ils voudraient bien pouvoir, mais ils ne peuvent pas, puisqu'ils ne peuvent pas répondre. Donc, du coup, il y a du non-recours qui se met en place, alors que ce n'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute. Et du coup, après, par la suite, la problématique, c'est que quand on... les assistantes sociales, quand ils sont arrivés à l'âge de retraite, elles ont bien agi, hein, on n'a rien contre elles. Elles ont fait leur travail convenablement tout. Elles ont vu qu'ils avaient des petites retraites à trous. Donc des retraites pas très fortes, très faibles, et du coup elles ont mis en place une aide qui s'appelle l'ASPA, donc l'aide de solidarité pour la personne âgée. Et pour cette aide là il y a quand même des règles qu'il faut respecter, mais eux voilà, ils ont rien compris, ils se sont dit l'assistance sociale, si elle m'a donné tout ça, c'est que c'est ma retraite, voilà, sinon elle ne me l'aurait pas donné, voilà. Et du coup ben les règles connaissent pas, ils savent pas ce que c'est, et donc ils sont souvent hors loi, hors la loi, parce qu'ils n'ont pas respecté ces fameuses règles là et maintenant ils se retrouvent après 3 ans ou 4 ans ou 5 ans de retraite à une grosse discrimination quand même importante. Ils se retrouvent avec des 12 000 euros, des 20 000 euros à rembourser parce qu'ils ont quitté le territoire plus qu'il ne le fallait. Donc à re-rembourser cet ASPA qu'ils ont reçu. Et la règle, ils peuvent, l'administration, la CARSAT, la caisse de retraite, elle peut aller jusqu'à leur demander 5 ans en arrière.
D'accord, du coup c'est parce qu'en fait ils ne sont pas sur le territoire tout le temps qu'ils leur demandent les remboursements.
Oui, parce que la règle c'est qu'il faut rester 181 jours. En France, c'est-à-dire 6 mois et 1 jour pour une personne retraitée qui a attendu toute sa vie d'arriver à la retraite pour pouvoir partir chez elle, voir sa famille, tous ces gens qui n'ont grandi, les enfants, les petits-enfants, vivre enfin une vie familiale comme il se doit, comme tout le monde. Et ben, ils n'ont pas le droit. Ils se sont rendu compte que eux, aujourd'hui, on leur demande de bannir cette famille, quoi, bannir ce joie de vivre, cette fin de vie qu'ils pourraient vivre confortablement au sein de la famille. Parce que il faut se dire aussi que l'Europe est grande. Avec l'Europe, c'est vrai que l'espace Schengen, tout le monde passe et repasse comme ils veulent. Et un ouvrier portugais qui a travaillé toute sa vie avec eux sur le bâtiment, les travaux publics, tout ça. Ben, l'ouvrier portugais, lui, quand il veut, comme il veut, on va pas contrôler ses va-et-vient. Et lui, migrant, parce qu'il vient d'un autre pays, on le met tout de suite à le contrôler, il n'a pas le droit à la vie saine comme tous les autres. Donc, voilà. La CAF, c'est un gros souci, parce que la CAF, elle te dit qu'il faut rester 8 mois en France. Donc, en fin de compte, des administrations qui n'ont pas du tout les mêmes règles et qui, en fin de compte, on te dit la loi 2002, c'est la protection de la personne âgée, tout ça, voilà, le bien-être de la personne. Mais en fin de compte, il faut croire que ces gens-là, ce n'est pas des personnes âgées, alors. Alors, nous, concrètement, nous les accompagnons à l'accès au droit. Donc déjà, tous les dossiers qui viennent ici, toute personne qui vient, elle nous ramène ses dossiers. On regarde avec elle si elle a l'ASPA ou pas. Donc du coup, on lui explique ce que c'est l'ASPA pour pas qu'elle reste hors champ. Et si elle a des problématiques déjà, donc on l'aide. On met en place des avocats et tout pour pas qu'elle soit obligée de rembourser les 12 000 ou les 15 000 euros parce que la CARSAT, elle est intransigeante. Donc nous, on les aide déjà à remettre en place les dossiers, à les accompagner, à emmener, à déposer des dossiers chez des avocats spécialisés qui sont très connus là-dessus et qui arrivent à faire face et s'opposer à la CARSAT. Donc certains dossiers, on arrive vraiment à les reprendre et la CARSAT, elle lâche prise. Et puis sinon, tous ceux qui n'ont pas des mutuelles, voilà, la santé, tout ça, on met aussi en place des CMU, tout ça. Et comme ça, au moins, ils peuvent se soigner. Voilà. Et puis, ceux qui n'ont pas de logement, on essaye aussi de les accompagner pour faire des demandes de logement, en sachant aussi qu'aujourd'hui, avec toutes les problématiques des migrants qui viennent de partout, à Domaïa Ralis, qui étaient des foyers spécifiques pour eux, ben aujourd'hui, eh ben non, ils sont plus réservés pour les personnes âgées migrantes. Donc, du coup, il y a quelques chambres, voilà. Donc, du coup, tu fais tes demandes par Internet. Donc déjà, ils ne savent même pas lire et écrire le français. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent des demandes par Internet? Et puis ceux qui en ont marre, qui sont là-bas depuis des années, on essaye de les sortir de là-bas pour qu'ils aient un appartement dans le diffus, quoi, comme vous et moi. Parce que quand même, vivre 40 ans chez Adoma ou à Ralis, hein, et tu payes 400 euros la chambre de... Allez, si je suis gentille, 9 mètres carrés, je trouve que franchement, c'est une belle prison quand même. Déjà, ils ont enlevé toutes les enquêtes contrôle systématique parce qu'avant, c'était contrôle systématique. Tu avais un nom arabe, la date de naissance. Hop. On t'envoyait un courrier. Comme tu ne sais pas lire et écrire, ben, automatiquement, contrôle. Par chance, tu savais lire ou tu avais quelqu'un qui t'avait bien lu. Et ben, tu répondais à leur courrier. Ben, c'était bon, quoi. D'où discrimination quand même parce que c'est important de savoir aussi qu'à cette époque-là, bon, aujourd'hui, la Tunisie a évolué d'une autre façon, mais à l'époque, on avait énormément de touristes, nous. Et on avait des villages entiers de retraités d'origine française, de Français, qui venaient chez nous passer finir leur beau jour chez nous, au soleil, d'accord. Et ils achetaient carrément des maisons, et on avait des quartiers, des retraités français. Et eux, ils n'étaient pas contrôlés, on leur demandait pas de rester 6 mois en France. Ça peut se contrôler, ça aussi. Tu regardes au niveau des retraits, parce que ça aussi, ils le font. Hein. Quand ils contrôlent une personne âgée migrante, ils lui demandent 12 mois de relevé bancaire. Et en plus, aujourd'hui, je peux vous dire que je trouve que... il y a un nouveau illettrisme, si je peux dire. Même pour la personne française, européenne, nos personnes âgées, quelles qu'elles soient leurs origines, elles n'ont jamais appris l'informatique. Et ben, moi j'ai une copine qui a 50 plus que moi, elle ne maîtrise pas plus qu'eux. Et c'est tous ces gens où il faut tout faire en ligne, il faut avoir un ordinateur et tout. Même la feuille d'impôt, on vous dit que bientôt, la semaine d'année prochaine, ça sera par Internet. Comment ils font? Comment ils vont faire tous ces gens? Alors, au niveau personnel, on est 4 ETP.
ETP, ça veut dire quoi?
Équivalence temps plein.
D'accord.
Donc, on a une juriste, on a le travailleur social qui est parti en maternité, donc il faut que je remplace. Moi, la directrice, et puis l'animateur.
Ok.
Voilà. Et un mi-temps de chauffeur qui vient un peu accompagner quand il faut qu'on les transporte, tout ça, à l'hôpital. Voilà, quand il faut partir un petit peu plus loin pour les aider. C'est un lieu aussi pour rompre l'isolement. Donc les gens, ils viennent et c'est leur club. Voilà, leur petit club et tout. On fait des repas, on fait des événements avec les gens du quartier, avec Brian Guy, avec Sixième Continent, avec l'Arche de Noé bientôt. Voilà, donc on fait plein de trucs. toute personne, quelle qu'elle soit, elle vient, nous demande, on l'accompagne. On nous demande l'origine, mais complètement égale. C'est le besoin de la personne qui m'importe. Voilà. En tout cas, je suis heureuse de voir que ces gens-là, quelles que soient leurs origines, une fois qu'ils sont ici, hommes, femmes, mixtes, y a plus ces problématiques comme j'ai pu connaître sur les années quand j'étais jeune, où à l'époque on te parlait du racisme primaire. Faut pas parler à la tout ça, toute cette peur qu'eux ils ont vécu, cette peur, ils étaient jeunes à ce âge-là. Voilà. Aujourd'hui, je suis heureuse quand je vois que des dames françaises et des messieurs, tout ça, et que je dis aux dames, ça te fait rien, Hélène, que tu es dans un, que tu es avec Mohamed et tout. Elle te dit, j'ai plus rien à perdre. Et ça, c'est merveilleux.
Toi, ça fait longtemps que tu viens ici?
6 ans.
6 ans?
Ouais. Ah, j'ai vu le matin et l'après-midi. Maintenant, j'ai venu l'après-midi. C'est bien, j'y trouve le bien. Avec les Chibanais, avant moi j'ai servi café, des fois je fais la cuisine. Ça dépend des choses, qu'est-ce qu'il fait. Parce que moi toute seule, je passe l'après-midi là.
Tu passes l'après-midi?
Oui, je passe l'après-midi là.
Tu viens tous les jours?
Oui, tous les jours.
Tous les jours?
Samedi et dimanche, non. Il y en a assez déjà, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Allez, parce que mon mari il est décédé 6 ans maintenant. Quand il est décédé, là, moi j'ai venu ici. J'ai poussé les papiers, il a fait les papiers, là. J'ai fait 2 marches, tout. Il y a ma fille là-bas chez moi, il y a ma fille là. Parce que tout le temps, il fait attention, moi. Quand il est sorti la nuit, j'y allais avec elle. Je prends de la maison et amène devant la maison. Il y en a un Tunisien, il y en a un Algérie, ça c'est moi de 15 ans, au Maroc. Il y a quand même un Marocain ici. Ils sont tous Tunisiens, l'Algérie.
Moi, ici, je suis au patio Dini, ça fait là depuis le mois de février. Je viens pour aider les Chibanis par rapport à ses papiers, s'il connaît un courrier ou quelqu'un est allé à l'hôpital ou pour remplir un dossier. Je discute aussi avec le Chibani, je joue aux cartes, aux dominos, je passe vraiment. J'aime bien fréquenter les Chibanis en fait, voilà. Et ça fait. Je passe un bon moment en fait. Moi j'habite dans un foyer social à Douma et je connais la responsable, c'est elle qui m'a montré ici. Moi aussi des fois j'ai des problèmes, des papiers et tout ça, et la responsable m'a proposé, elle m'a fait moi un contrat ici, un bénévole. Je dis je suis ennuyé, des fois j'aime bien fréquenter les gens et tout, et il m'a dit est-ce que si possible l'après-midi vous travaillez avec nous. J'ai essayé la première jour, la deuxième jour je trouve il est sympa, il y a beaucoup on fait des soirées des fois, on fait des choses en fait, par exemple comme il y a des enfants qui viennent de l'école ici, on fait un repas, je trouve que c'est très très sympa en fait. Et moi depuis que je suis jeune, j'aime bien fréquenter les gens, surtout les grands. Et si par exemple quelqu'un qui demande pour voir son portable, il a un problème de son portable ou qui attend un message à la CAF ou à la sécurité sociale et tout, je l'aide en fait, je l'aide. Ou quelqu'un qui est par rapport à ses papiers pour un passeport et tout, j'aime bien aider les gens en fait. Mm-hmm. Donc, voilà. Du fois même samedi, nous on ne travaille pas, mais c'est exceptionnel parce que les Chibanis ont l'habitude ici, qui vient même samedi quand je joue aux cartes, je passe boire un petit café avec les gens. Je pense à ma famille, parce que toute ma famille en Tunisie, ma mère, et l'impression de jouer avec la famille. Voilà.
Le patio des aînés, c'est 5 rue d'Ansart, dans le 7e arrondissement de Lyon, et c'est ouvert du lundi au vendredi, de 14h à 17h. Vous êtes les bienvenus.
La grande chaleur et tout, à quoi ça me sert de les protéger si c'est pour qu'ils meurent tout de suite parce que tu lui donnes, tu lui enlèves sa retraite?
Et vous êtes à nouveau dans les studios de Radio Canu, Canu Info du vendredi, il est 19h23 et on va désormais...
24, pardon.
Et on va vous parler de l'occupation de la mairie du 3e par des familles du Square Barabon.
Tout à fait. Alors du coup, il n'y avait personne de l'équipe directement sur place aujourd'hui, mais on peut vous relayer quelques informations qui ont été postées sur le site Rébellion. Donc, pour commencer, hier, au matin vers 7h, la gendarmerie est intervenue en nombre avec une dizaine de fourgons. Et en quelques heures, la centaine d'occupants du parc qui dormaient là sous tente depuis le 10 février, suite à l'expulsion d'un autre parc, avait été évacuée. Ils et elles sont désormais sans aucune solution, même pour les personnes en grande fragilité. Et à noter quand même que le responsable de l'église du Sacré-Cœur, lui, a été très rapide pour fermer sa porte à clé. Ces familles dormaient dans le square depuis le 10 février. Et on se souvient que début mars, la ville de Lyon avait assigné ces familles devant le tribunal administratif en justifiant que le lieu n'est pas adapté à l'hébergement et en soulignant l'absence de sanitaire. Le juge des référés a donné raison à la municipalité. Il a estimé que malgré l'aide apportée par les associations, le manque de sanitaire ne suffisait pas à garantir des conditions d'hygiène, ce qui rendait à la fois utile et urgente la mesure d'expulsion sollicitée par l'autorité municipale, avait précisé le communiqué. Sans se soucier ni du droit au logement ni de la dignité humaine, une centaine de personnes se retrouvent donc encore à la rue sans solution et sans possibilité de se poser. Et donc aujourd'hui, suite à cette expulsion du Square Barabon et comprenant qu'aucune solution ne leur serait faite par la préfecture, les familles, donc une cinquantaine d'enfants et plus de 70 adultes, ont été expulsées et ont décidé collectivement de venir occuper pacifiquement la mairie du 3e afin d'obtenir des solutions pérennes, sachant qu'ils disposent tous d'un récépissé de la préfecture prouvant que leur demande d'asile a été faite et donc que leur prise en charge par l'État est obligatoire. À 14h, la mairie était donc encerclée par la police. Les familles et les soutiens font un sit-in en risquant à tout moment d'être expulsés. Et à 16h, il y a une partie des familles qui ont accepté de sortir avec une soi-disant promesse d'hébergement. La presse et des soutiens étaient devant la mairie et une expulsion par la force aurait été jugée trop négative. Enfin, voilà, aurait été trop visible et trop médiatisée. Et donc, du coup, ils ont opté pour une pression psychologique pour faire craquer les familles. Donc, refus d'aller aux toilettes, pas de nourriture, pas d'eau, pas de cigarettes, enfin, pas de circulation. Pendant que les forces de l'ordre montrent ostensiblement avoir accès à tout cela. Et puis un peu plus tard dans l'après-midi, vers 17h30, il y a l'ensemble des familles qui est sortie sans aucune proposition. Et elles attendent à ce moment-là devant la mairie sous la pluie. Puis à 18h, elles ont essayé d'aller récupérer leurs affaires qui étaient restées dans le square. Mais contrairement à ce que l'adjointe au maire du 3e avait promis, la police les en a empêchées. Ces personnes-là se sont donc retrouvées de retour devant la mairie sous la pluie et toujours sans solution d'hébergement pour cette nuit. Voilà, donc affaire à suivre, mais ces familles vont sûrement se retrouver à la rue ce soir et peut-être dormir au pied d'un immeuble complètement vide, parce qu'il faut rappeler, les immeubles vides, ils sont entre 20 et 30 000 à Lyon environ.
Canu Info.
Gendarmerie nationale ! Arrêtez un peu les conneries, là, non ?
Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature ? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores.
D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État ?
J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle.
Info nationale.
Décidément, les temps comme les œufs sont durs. Et la bêtise n'a pas de limite.
Et maintenant, dans la rubrique nationale, direction Calais, où la justice suspend les arrêtés de la mairie interdisant la distribution de repas à des migrants.
Bravo!
Enfin, des bonnes nouvelles.
De la justice, de la paix.
Alors, en effet, le tribunal administratif de Lille a estimé que les mesures prises au début de mars par la mairie ont pour effet de priver une population en très grande précarité d'une assistance alimentaire vitale. Les associations d'aide aux migrants ont enregistré une nouvelle victoire devant la justice, du coup, dans leur bras de fer avec la mairie de Calais. Et puisque c'était donc ce mercredi que les arrêtés visant à interdire la distribution de repas dans certains lieux ont été abrogés. Du coup, c'était en début de semaine dernière qu'il y a 10 associations d'aide aux migrants qui avaient déposé un référé liberté au nom de la liberté d'aller et de venir et de manifester contre ces arrêtés-là qui avaient été pris par la maire de Calais, Nathalie Bouchard. Ceux-là, ils interdisaient la distribution de repas qui avait lieu dans la zone industrielle de Calais. Donc, le tribunal administratif de Lille ordonne que l'exécution des arrêtés soit suspendue à compter de la notification de la présente ordonnance. Et ainsi, le tribunal considère que la maire de Calais a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et de venir et à la liberté de réunion. Ce qui faisait obstacle à la satisfaction par les migrants de besoins alimentaires vitaux au droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants. Certes, les juges disent comprendre le souhait de la commune de préserver ses habitants et leur cadre de vie pour ne pas se retrouver dans la même situation qu'il y avait eu avec les 6000 migrants qui étaient présents dans la jungle démantelée à l'automne. Mais les mesures prises par la maire avaient pour effet de faire des traitements inhumains pour les gens. Ça peut nous faire un peu penser à ce qu'on avait dit déjà en février, que déjà la maire avait pris un arrêté pour installer des bennes devant les douches qui avaient été installées par le Secours catholique, tout ça pour empêcher les migrants de se doucher. Et là aussi, il y avait une victoire grâce au tribunal administratif de Lille. Donc au moins de temps en temps, il y a quand même un petit peu de justice, quoi. Donc voilà, les associations ont fait part de leur satisfaction. Et on espère que ça va continuer.
Et de Calais, on va directement à Grenoble retrouver notre spécialiste des vitres qui tombent.
Et oui, bim, 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 parce que après le Parti Socialiste qui a vu sa vitrine tomber à Grenoble il y a une ou deux semaines, c'est la nuit de lundi à mardi que la vitrine des Républicains est tombée. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben, en pleine nuit, quelques personnes se sont introduites, ont pété les vitres extérieures, les vitres intérieures, ont pété le mobilier, le matériel informatique et surtout ont balancé de partout de la jolie petite peinture rouge. Donc, comme ça, sur les photos, on a l'impression que c'est du sang un peu, c'est assez incroyable. Et du coup, le responsable de la fédération LR d'Isère explique que
pas
tout
content.
Il n'est pas content, lui, parce que déjà, ça fait 4 fois, genre en un an, qu'ils se font défoncer leur local, qui sont un peu fatigués à Grenoble quand même, les Républicains, et ils disent tout le matériel de campagne a été souillé avec de l'ammoniac. Ça va nous immobiliser pendant plusieurs jours. Pas de bol. Ils se demandent pourquoi. Eh ben oui, pourquoi, à votre avis, le local des Républicains a été détruit? Eh ben, on a de la chance, on a de la chance, parce que les auteurs et les autrices de cet acte ont publié une lettre pour expliquer. Donc, en gros, c'est parce que les Républicains sont les tenants de la politique d'austérité, mais aussi parce qu'ils étaient dans la rue pendant la manif pour tous, afin de défendre un ordre moral et catholique, mais aussi parce qu'ils aiment bien l'état d'urgence, et aussi parce qu'ils aiment bien aussi, faire des trucs un peu contre la délinquance, expliquer que tous les délinquants et les délinquantes, c'est des voyous, alors que eux-mêmes et elles-mêmes, ils sont un peu tous à moitié inculpés pour tout un tas d'histoires. Et donc voilà, c'est en gros.
C'est un complot, ça.
Mais du coup, voilà, quoi, c'est un petit peu. On se demande comment ça se fait. Et alors, eux, ils justifient aussi. Alors là, ils justifient parce que le sabotage et la destruction matérielle ne sont que des formes parmi d'autres que nous employons chaque jour pour tenter de survivre ou s'opposer au rapport de force que vous contribuez à imposer au quotidien. Et du coup, bah, le pauvre monsieur Thierry Kovacs, qui est donc maire de Vienne et responsable LR, dit que ça va l'arrêter pendant plusieurs jours, mais peut-être que l'objectif est du coup atteint. Peut-être que c'était ça l'idée, arrêter la campagne des Républicains. Mais comme on est en période électorale, le CSA nous impose de donner les adresses des autres locaux par des partis politiques de Grenoble. Donc le local BS du parti de Grenoble se situe 31 ou 33 rue Nicolas Charrier à Grenoble. Le FN n'a pas de local effectif, en tout cas j'ai pas trouvé l'adresse, mais je peux vous donner leur adresse postale.
C'est à Perrache.
Le local, le FN est à Perrache. Et donc l'adresse, c'est FN 38 BP 465 38016 Grenoble CEDEX 1. Et le parti de gauche, c'est 12 rue des Arts, 38000 à Grenoble. Donc
voilà ce qu'ils disent. Ce respect de la neutralité quand même.
À Grenoble, ah ouais, manigé, hein, c'est compliqué.
Et ils attendent tous et toutes vos cartes postales.
Pour nos grands-parents qui nous écoutent, les Républicains, en fait, c'est le RPR. C'est ce parti qui change de nom tous les 10 ans, qui est ensuite devenu l'UMP. À chaque fois qu'il y a trop d'affaires pour les faire oublier, ils vont peut-être changer de nom après la présidentielle.
Bon, et on passe à la rubrique juridique. En fait, En fait, on vous parle d'une nouvelle décision de la Cour de cassation du 21 mars 2017, qui en fait a été saisie sur une affaire concernant une personne intersexuée, du coup, qui souhaitait ne pas se définir ni homme ni femme sur ses documents d'état civil. Et la Cour de cassation a reconnu son droit à noter sur ses documents le sexe neutre, donc une espèce de reconnaissance d'un troisième genre. Décision qui est plutôt historique et politiquement assez importante parce que ça pourrait être un bon début pour reconnaître l'existence et le droit à être reconnu aux personnes intersexes et en général aux personnes qui ne se reconnaissent pas dans les catégories hommes ou femmes. Donc dans ce cas spécifique, on parle de personnes intersexuées ou intersexes. C'est les personnes qui présentent des caractéristiques sexuelles ambiguës à la naissance. Et donc les médecins, ils savent pas, ils peuvent pas les définir ni garçon ni fille. Et donc souvent, ce qui se passe, c'est que du coup, quand même, on oblige les parents à choisir un genre ou on fait des opérations chirurgicales pour que cet enfant puisse être rattaché à l'une des deux catégories. Parce que oui, toutes les sociétés humaines sont un peu fondées sur la binarité des sexes. Mais contrairement à ce qu'on peut penser, en fait, les connaissances scientifiques montrent qu'il existe plusieurs critères pour définir les sexes d'un individu, sans qu'aucun ne soit prépondérant. Donc l'anatomie et les organes génitaux extérieurs et intérieurs, les hormones ou encore la génétique. En fait, il y a plein de facteurs dont aucun n'est prépondérant sur les autres. Et donc souvent, il n'est pas possible de scientifiquement de définir si une personne est homme ou femme. Statistiquement, il est difficile d'évaluer le nombre d'enfants qui naissent intersexués. La secrétaire d'État Laurence Rossignol évoque une naissance sur 5000, soit environ 160 naissances par an en France. Le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe considère qu'il représente 1,7% de la population totale, soit environ 2000 naissances par an en France. Et pour l'Organisation internationale des intersexes, c'est encore plus important, ces chiffres. Donc on part quand même d'une catégorie de personnes qui est quand même assez importante et qui est stigmatisée depuis la toute jeune enfance et qui n'a pas de reconnaissance aucune et sur laquelle on fait des opérations sans consentement souvent parce que c'est sur des petits bébés. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe sur cette affaire particulière? On parle d'un homme qui a 66 ans aujourd'hui. En fait, à sa naissance, du coup, les médecins n'ont pas pu définir son sexe et ses parents, ils ont été un peu poussés à choisir. Du coup, ils ont opté pour un garçon. Donc, 6 ans plus tard, donc cette jeune personne avait 6 ans. Les médecins ont fait une opération pour déterminer effectivement s'il avait des testicules remontés. Donc, en gros, ils l'ont ouvert pour voir s'il y avait des testicules. Et en fait, même cette opération, elle n'a pas permis de définir son sexe de façon biologique. Ça a été très mal vécu par ses parents qui ont comme réaction, et en fait, ils ont refusé que ces gamins subissent d'autres opérations chirurgicales. Et donc cette personne a grandi évidemment avec beaucoup de genre, avec une enfance assez difficile, ne se sentant ni garçon ni fille, et par contre croisant sans cesse des médecins qui essayaient de lui filer un genre. Du coup, à 22 ans par exemple, il ou elle passe toute une série d'examens dans un hôpital et un professeur décide que selon ses goûts, sa personnalité, sa façon de se comporter, c'était plutôt une fille. Et donc, il lui conseille de devenir fille. À 31 ans, un médecin du travail, en fait, dit non, mais en fait, vous n'avez pas de traitement. Et du coup, lui impose un traitement à base de testostérone pour que... soi-disant pour éviter l'ostéoporose, mais qui au passage en fait lui donne toute une série de caractéristiques physiques et physionomiques de homme. Donc cette personne arrive à trouver quand même un équilibre malgré toute cette pression sociale et médicale ensuite à 40 ans. Et il décide un jour de demander une ratification de son sexe de naissance, qui était donc, on avait dit, qu'il avait été déclaré garçon à sa naissance, et entreprend une action en justice pour que son sexe neutre soit reconnu sur son acte de naissance. Ça c'était en août 2015. Le tribunal des grandes instances de Tours, qui avait été saisi, du coup estime que l'état civil de cette personne devait être rectifié et devait comporter une mention neutre. En 2016, la cour d'appel d'Orléans, qui avait été saisie, infirme cette décision et dit que c'est pas du tout au juge de prendre cette décision, c'est au législateur. Du coup, pas du tout, on change rien. Et en 2017, la cour de cassation redit que oui, tout à fait, c'est important et que on peut reconnaître à cette personne le droit de se définir neutre dans son acte d'état civil. Donc peut-être une ouverture au droit de toute personne de se définir comme il ou elle veut et de ne pas renseigner la mention de son sexe sur les documents de la vie courante. On verra bien.
Et donc, peut-être que les personnes intersexes vont obtenir des droits, mais a priori, les migrants et les migrantes n'en ont toujours pas. Parce que, il y a l'histoire d'une dame qui vient de passer 14 jours avec ses deux enfants de 1 et 3 ans dans la zone d'attente de l'hôpital de Roissy. Donc, cette personne, elle arrive le 6 mars en France avec ses deux enfants. Et au moment d'arriver à Roissy, la PAF leur explique que, vous n'allez pas trop pouvoir rester parce que, vous n'avez pas les conditions d'hébergement et de ressources nécessaires. Donc ça veut dire qu'il fallait présenter un truc pour dire qu'on allait être hébergé quelque part et qu'on n'allait pas vouloir rester ici, pour rester en France pour s'installer, mais que c'était vraiment juste une visite. Alors même que la personne a présenté tout un tas de documents pour dire où est-ce qu'elle allait être hébergée, comment elle allait payer, tous ces trucs et tout. Mais comme c'était un peu bizarre, la PAF ne savait pas tout ça. Et du coup, ils se sont dit non, mais c'est bon, elle est hyper dangereuse, cette dame, on va la retenir en zone d'attente. Donc, elle a passé 14 jours avec ses deux mômes en zone d'attente, dont pendant ces 14 jours, de 11h à 16h du matin, elle était dans une salle de maintien. Alors, ça veut dire c'est une salle, et dans une petite salle comme ça, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas d'eau, machin. Et le reste du temps, elle était dans la zone d'attente, donc ça veut dire pas vraiment de douche non plus, pas vraiment d'eau, elle n'a pas eu de quoi doucher ses enfants, elle n'a pas eu de quoi changer son fils de un an qu'il y a des couches, et du coup au bout d'un moment, les enfants ils mangeaient presque plus, ils étaient complètement fatigués, enfin, vous imaginez un endroit, il y a du bruit, il y a du machin, il y a la lumière, et en plus il y avait tout le temps l'interphone qui sonnait pour dire à la mère, venez, il faut aller voir le juge des libertés, il faut aller voir la PAF, faut aller voir machin, faut aller voir ci. Donc du coup l'interphone qui sonne tout le temps, enfin vraiment pas un truc hyper déjà dans un d'être enfermé, mais en plus un contexte qui fait que l'angoisse des enfants et de la mère aussi montait. Donc pendant ce temps-là, le ministre de l'Intérieur a été alerté, le défenseur des droits, le contrôleur général des lieux de privation de liberté a été alerté, mais tout le monde s'en balance et il a fallu que le petit enfant de 1 an soit hospitalisé suite au mauvais traitement qu'il avait subi, pour que la famille ait enfin le droit de venir sur le territoire, sachant que la personne était venue pour repartir le 28 mars, donc là, c'est que le 20 mars qu'elle a pu sortir de la zone d'attente de Roissy. Donc ça, c'est un exemple, en fait, parmi d'autres, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout, j'en parle, mais parce que c'est particulièrement dit d'intérêt et un peu choquant en soi, mais c'est juste pour dire, en fait, que l'état policier est raciste et les traitements inhumains et dégradants, ben, en fait, c'est pas un truc un peu vague comme ça, c'est une réalité qui peut briser la vie de personne, mais comme ça, mais tous les jours, quoi. Et du coup, bah, ça donne encore plus de raisons de se révolter, et en Guyane, on se révolte, paraît-il.
Mais oui, en Guyane, on se révolte. Depuis hier, des barrages routiers et des rassemblements populaires agitent la Guyane un peu de partout. Donc il y a une mobilisation générale qui a été lancée tour à tour par des collectifs citoyens, des syndicats, des organisations professionnelles. Il y a le centre spatial, le port de commerce et l'aéroport qui sont bloqués depuis plusieurs jours. Et jeudi, au petit matin, il y avait différents groupes, syndicats, des patrons qui ont convergé pour faire entendre à Paris leurs revendications d'ordre sanitaire, économique, éducatif, sécuritaire, foncier et énergétique. Voilà, c'était pour dire, bon, c'est plus possible que la métropole s'en foute de la Guyane. Et il y a 200 hommes qui ont été déployés apparemment sur les villes de Kourou et de Cayenne. Et hier, donc, il y avait des barrages qui étaient érigés sur l'ensemble des ronds-points et au cœur des villes, tout le long des 500 km de façade atlantique du territoire. Les blocages routiers ont entraîné une fermeture en chaîne des établissements scolaires, des mairies, de l'université et finalement aussi des commerces. Au niveau des fusées, après trois reports, ArianeSpace a finalement ajourné le vol d'une Ariane 5. Initialement prévu mardi, et Air France a suspendu ses vols en direction de Cayenne jusqu'à nouvel ordre. Tout le long de la journée, il y avait des hélicoptères de gendarmerie qui assuraient une surveillance aérienne, pendant que les rayons de magasins ont été fortement allégés et les cuves des stations essence vidées. Les Guyanais avaient en mémoire le blocage du territoire pendant de longues semaines qui avait eu lieu en 2008 au cours d'un soulèvement contre la vie chère et qui s'était propagé aux Antilles. Et là, voilà, ça recommence. Donc une forte mobilisation est en cours de structuration. Donc elle est soutenue par la classe politique locale. Les ministères de la Santé et des Outre-mer ont essayé de répondre par des annonces. Donc il y a Marisol Touraine qui a suspendu jeudi le processus controversé de reprise entamé entre la Croix-Rouge, qui est gestionnaire du centre médico-chirurgical de Kourou, et le groupe Rainbow Santé, qui est censé, voilà, reprendre le centre médico-chirurgical de la ville de Kourou. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme annonce ? La ministre des Outre-mer a communiqué sur l'attribution de 3,5 millions d'euros au titre du fonds exceptionnel d'investissement. Voilà, elle a dit qu'il y aurait des réunions préparatoires à Paris avec des élus guyanais et des porte-parole du mouvement. Donc, il y a eu un refus par rapport à cette proposition. En fait, les manifestants et les parlementaires guyanais socialistes ont dit que la solution de cette crise, ce serait sur le sol guyanais. Donc, ils n'iraient pas à Paris. Donc, ce vendredi, il y avait encore des collectifs citoyens qui demandaient une amélioration des soins hospitaliers, des agriculteurs en colère qui manifestent contre les retards de versement qui découlent de la politique agricole commune, des enseignants qui rappellent qu'ils attendent un plan massif de rattrapage en faveur de l'éducation, des orpailleurs qui exigent une politique minière camarade, des représentants amérindiens qui s'élèvent contre les agressions, contre l'exploitation aurifère, contre le vol de leurs terres. Donc voilà, tout ça, ça a démarré lundi 20 mars, dans la ville spatiale de Kourou, à la veille d'un tir d'une Ariane 5. En interne, c'est les salariés de la société Endel, chargés de la maintenance au centre spatial, qui avaient suspendu leurs activités pour faire pression sur la négociation annuelle obligatoire. Et puis, un accord a été trouvé, mais ils ont été rejoints par des grévistes d'EDF qui, avec leurs syndicats, ont entamé une grève illimitée. Et voilà, ces grévistes ont érigé des blocages aux abords du centre spatial. Et un collectif opposé à la vente du centre médico-chirurgical de Kourou est venu les rejoindre pour, une, voilà, pour eux lutter plus pour une meilleure couverture hospitalière. Mais ils sont aussi installés devant l'enceinte du centre spatial. Donc comme c'est à côté du centre spatial, il y a eu une forte répression avec des lacrymos et tout ça. Et voilà, mais bon, la mobilisation a continué tout le long de la semaine puisque des transporteurs ont rendu inaccessible le port de commerce des Grandes-les-Cannes. Ils ont été rejoints par les dockers et il y a déjà deux transatlantiques qui sont repartis de la Guyane sans avoir pu décharger. Donc ça va vite avoir des effets en Guyane puisque en Guyane, les importations, c'est 99% des denrées, quoi. Donc ils ont un fort moyen de pression. Et voilà, du coup, les gens, ils luttent aussi contre les homicides, parce qu'il y a eu 38 homicides en 2015. Et il y a beaucoup d'insécurité aussi. Donc voilà, ce qu'ils demandent surtout, à Kourou comme ailleurs, c'est que Paris entende qu'il y a des gens en Guyane et qu'il n'y a pas que la fusée qui est intéressante, mais il y a aussi des vrais gens, en fait, qui ont des vrais problèmes et qui se sentent vraiment oubliés de la République. Et voilà, à voir comment la lutte va continuer.
Et bah ouais, bah en Guyane, ils ont la tête dans les étoiles. Et à Kourou, ils sont en colère. Désolé, fallait que je la fasse. Mais je vais aller très très vite. Mais du coup, c'est qui le plus riche? C'est Bernard Arnault. Bernard Arnault, il a 38 milliards d'euros. Il a bassé devant Julien Bettencourt. Et du coup, c'est l'occasion de rappeler que 1%, déjà en janvier 2015, selon l'Oxfam, il y avait 1% des plus riches qui possédaient davantage que 99% des restants et des restantes. Et du coup, bah, il y a l'année 2016, c'est la crise, les cocos, les cocottes, faut se serrer la ceinture. Et ben en fait, pendant ce temps-là, Bernard et Yann Deron et les entreprises du CAC 40 ont fait 50 milliards d'euros de bénéfices. Alors du coup, est-ce que c'est vraiment les migrants qui nous coûtent si cher, sachant que par exemple l'AME, c'est seulement 720 millions d'euros par an.
Merci. Et alors du coup, il y a des gens qui font plein de thunes et il y en a d'autres qui font plein de vues sur internet. C'est notamment le cas de Gaspard Glantz. Vous faites peut-être partie de ces 500 000 personnes qui ont vu les dernières images de Gaspard Glantz. Gaspard Glantz, c'est le vidéaste de Taranis. Et alors, sur son compte Facebook, des dizaines de personnes, dont certaines sont clairement identifiées comme des flics, puisque ces personnes sont assez malines pour se mettre en photo en tenue de flic sur leur mur de Facebook. Des dizaines de personnes donc ont laissé des commentaires haineux sur son mur, dont des appels au meurtre. Mais pourquoi toute cette haine contre Gaspard? Eh bien parce que Gaspard a filmé à Paris pendant la marche pour la dignité du 19 mars, c'était dimanche dernier. Gaspard a filmé trois flics qui s'étaient déguisés en journalistes pour mieux espionner et filmer des cortèges. Et alors Gaspard va un peu les chercher et il leur dit qu'il les a démasqués et que c'est quand même pas bien de se faire passer pour des journalistes alors qu'on est un flic, c'est un peu vrai. Et les flics, quand ils entendent Gaspard leur dire ça, caméra à la main, ils sont pas du tout contents qu'on les confonde pendant qu'ils font des trucs pas très réglo et qu'on leur dise qu'ils sont pas très réglo, hein, devant la caméra. Et alors, ils sont tellement pas contents qu'il y en a un des trois, des flics qui est déguisé en caméraman et en journaliste, qui crache sur Gaspard et sur sa caméra. Et ça, c'est quand même pas cool. Et il y en a un autre qui s'énerve et qui menace de suivre Gaspard pendant toute la manifestation. À quoi Gaspard répond, eh ben viens si tu veux, il n'y a pas de souci, on va dans le bloc, je vais te présenter à des gens qui aiment beaucoup la police. Et la vidéo, elle s'y lit comme ça. Et voilà, donc Gaspard ensuite poste sa vidéo sur Taranis, il la met sur son mur Facebook et là, bim, gros buzz, 500 000 vues. Bon, alors on l'a déjà dit ici à plusieurs reprises, des camarades l'ont fait, il y a beaucoup à redire sur Taranis et les vidéos qu'il et elle produisent. Et beaucoup à redire sur ces journalistes qui promènent leurs camarades dans les manifs pour faire des images spectaculaires qui d'une part mettent en danger des camarades parce que les images peuvent être réutilisées par la police et d'autre part travaillent au spectacle de la fin du monde au lieu d'œuvrer à la fin du monde du spectacle. Et ça, c'est pas de moi, c'est joli. Je le redis, c'est pas de moi, c'est joli. Ils travaillent donc, ces gens, au spectacle de la fin du monde, au lieu d'œuvrer à la fin du monde du spectacle. Et c'est pas Guy Debord non plus, c'est très joli quand même. Une fois que ça c'est dit, on peut quand même revenir à cette affaire du journaleux de Taranis, Gaspard Glanz, donc, qui avait déjà été embêté plusieurs fois par la police, récemment notamment à Calais. Et être embêté par la police et en plus à Calais, c'est quand même s'acheter une certaine street crédibilité. Bref, après avoir confondu les trois flics déguisés en journalistes et avoir posté sa vidéo, Gaspard a reçu sur son mur Facebook quelques doux messages, dont beaucoup viennent de policiers. On vous réserve un petit panachage à travers une autre jolie voix.
Y a pas une balle perdue pour ce fils de pute ?
A tué direct ras-le-bol, nous sommes en France ou pas ? Les anciens auraient pris le fusil depuis longtemps.
C'est sa gueule de con qu'il faut diffuser avec à la clé une prime à celui qui l'explosera.
Alors voilà, c'est quand même assez cru, bon c'est du langage de flic, hein, mais Gaspard ça l'a quand même beaucoup inquiété, et il dit, donc il écrit hein, sur internet, je pense qu'il écrit souvent sur internet, il écrit « C'est sur une page de soutien aux flics par des flics, ce n'est pas rassurant que des mecs qui peuvent avoir des armes hors service tiennent ce genre de propos. » Et c'est vrai qu'on le comprend, c'est pas très rassurant, notamment à l'heure où la police se constitue de plus en plus en force autonome du pouvoir. Le journaliste a décidé de porter plainte donc contre plusieurs personnes ayant publié des appels au meurtre. Quand même, les mecs, ils ont en plus leur... Ils écrivent ça, mais il y a leur nom, et on sait en plus que c'est des policiers. Ils sont quand même pas très très malins. Gaspard Glanz a également tenté de faire supprimer le post en le signalant à Facebook, cette joyeuse multinationale, mais rien à faire, Facebook lui répond en lui disant que s'il veut, il peut bloquer les commentaires des flics sur son mur, mais qu'en aucun cas, ces commentaires ne seront supprimés de Facebook, même si Facebook comprend que Gaspard ne soit pas très content d'être menacé de mort. Ils comprennent, mais ils ne suppriment pas. Voilà, voilà. Est-ce que j'ai le temps? Pas vraiment. Tout ça pour dire qu'il y a aussi, en parlant de caméra, je vous renvoie simplement vers un très bon article qui a été publié sur Paris Lutte Info au sujet d'un documentaire d'envoyé spécial qui s'appelle « Nous sommes tous des casseurs » et l'article rappelle comment ces journalistes ont produit des images qu'ils ont refilées aux flics, et notamment il y a certaines de ces images qui servent à incriminer notamment une personne qui est encore actuellement en prison au sujet de la voiture qui avait été attaquée au printemps dernier. Voilà, donc méfiez-vous des caméras en manif, mieux vaut.
Si vous voulez trouver ce magnifique reportage, il est signé Thierry Vincent. Je pense que c'est toujours important de préciser les noms des gens qui nous balancent.
Et sans transition au Koun, parce qu'on est en retard, on passe à l'international, on passe aux États-Unis et en perte de lois anti-avortement qui sont en train d'être approuvées au Texas. Alors en fait, en début de semaine, le Sénat du Texas a approuvé deux propositions de loi, donc qui ne sont pas définitives, mais bon, presque. Donc la première, en fait, permet aux médecins de ne pas donner des informations sur des éventuelles anomalies du fœtus ou de maladies génétiques aux femmes enceintes quand ils pensent que la femme pourrait décider d'avorter. Et la deuxième propose d'interdire une procédure d'interruption de grossesse qui est considérée comme l'un des plus sûrs, mais qui n'est pas trop aimée par les gens anti-avortement. Alors du coup, le Bill 25, du coup, c'est cette première proposition. En fait, elle voudrait interdire, genre annuler une loi qui permet aux parents d'attaquer les médecins qui ne les auraient pas bien informés ou bien conseillés pendant la grossesse. Et du coup, voilà, c'est qui ce charmant monsieur ? C'est Brenton Crichton, c'est un sénateur républicain qui se déclare ouvertement pro-life, donc pour la sacralité de la vie, qui dit que non, en fait, c'est pas possible. On va autoriser le médecin à faire des actes d'omission concernant les informations médicales sur le fœtus pour que les femmes n'hésitent pas d'avorter, oulala, des enfants. Donc, sachant que ça a été approuvé par le Sénat avec une large majorité. Et la deuxième proposition de loi qui vient d'être approuvée par le Sénat empêche une technique d'avortement qui est utilisée communément pendant le deuxième trimestre de grossesse, parce que les anti-avortements disent que en fait c'est trop trash, quoi. Alors que c'est la plus sûre qui existe pour la femme en cas de, voilà, avortement au deuxième trimestre. Donc juste pour vous rappeler que au Texas, c'est pas trop trop cool ce qui se passe en termes de droit à l'avortement, parce que par exemple en 2013, il y a une loi qui a été approuvée qui limitait énormément les droits des cliniques qui pratiquaient les avortements. Du coup, il y en avait 41 avant cette loi, et après 2013, il en reste 18. Et que en fait le mec qui est à la tête du Texas, Greg Abbott, qui n'aime pas du tout le droit à l'avortement, il a fait récemment voter une loi en décembre dernier pour que les fœtus avortés soient enterrés ou incinérés comme après un décès, avec une cérémonie et tout ça. Et entre temps, en Missouri, qui est aussi un état des États-Unis, et bah, un membre républicain de la Chambre de représentants, et il a fait une proposition de loi qui obligerait le musée public de l'État à créer une expo sur l'histoire de l'avortement à côté de l'expo sur l'histoire de l'esclavage, parce qu'il déclare que l'avortement fait plus de morts que l'esclavage et l'Holocauste. Et du coup, il faut bien en parler. Voilà ce qui se passe rapidement aux États-Unis. Ça nous inquiète un peu, quand même.
Et alors, maintenant, je ne sais pas où on en est en technique, mais est-ce qu'on parle de Bruxelles ou de l'agenda ?
L'agenda !
Parlons vite fait de l'agenda. C'est quoi que t'as noté là sur...
C'est parce qu'en fait, demain soir, il y a la cantine pour cantiner.
Ah, voilà. C'est parfait. Et voilà, juste pour vous dire vite fait que demain soir, donc avant la cantine pour cantiner, il y a aussi une manifestation.
Avec qui du coup est dans l'après-midi, on est d'accord.
Hein. À 15h, non ?
Oui, qui n'est pas demain soir, ouais. Qui est dans l'après-midi.
Ça me rassure.
Voilà, c'est au terreau. Donc c'est l'heure, parce que j'ai oublié de noter.
15h, voilà.
Donc c'est pour la liberté de circulation, donc pour les réfugiés, les migrantes. Donc voilà. Ensuite, il y aura à 15h aussi, il y a un débat à Terre des Livres, donc sur Pensée sauvage, avec sur un bouquin de Michel Granger. Donc voilà. Bref. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, le soir, eh ben, il y a Cantine pour cantiner.
Oui.
Donc ça, c'est à l'atelier des canulars. Ah non, c'est pas du tout. Ah putain, mince.
Oh oh.
C'est
t'as menti.
C'est l'habitude de.
C'est plutôt à Villeurbanne.
C'est plutôt à Villeurbanne. Voilà. Est-ce que j'ai le droit de dire l'endroit ?
Je crois qu'il faut